Bienvenue dans l'émission Amphi 23 depuis le 23 Quai de Conti. Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques, s'adresse plus particulièrement au monde enseignant et étudiant et aux futurs bacheliers. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, Amphi 23 dans sa série d'émissions Les philosophes et l'Europe, autour de la question centrale « Une Europe politique est-elle possible ?», s'interroge sur la pensée allemande et tout particulièrement sur l'apport d'Emmanuel Kant et la métaphysique de l'Europe. Le germanocentrisme que l'on trouve dans la pensée allemande du XVIIIe ne se retrouve pas dans la pensée de Kant. L'européanisme de Kant est centré sur la loi, de même qu'il, je cite, « appelle européenne une nation pourvu qu'elle admette une contrainte conforme à la loi », de même, l'Europe est le continent qui, de manière vraisemblable, donnera un jour des lois à tous les autres. La loi est donc l'essence même de l'Europe ainsi que son but. Avec nous pour répondre à ce sujet, Bernard Bourgeois, philosophe, membre de l'Institut, spécialiste de la pensée allemande, et Constance Hubert, journaliste à Canal Académie, vont nous éclairer par leur entretien. Bernard Bourgeois, bienvenue dans notre émission.
Bonjour.
Bonjour. Constance, la parole est à vous.
Merci Marianne Durand-Lacaze. Bernard Bourgeois, bonjour. Vous nous avez montré l'impossibilité d'une réalité européenne qui soit totalement rationnelle. C'était l'objet de notre précédente émission. Donc, une impossibilité d'une réalité européenne qui soit totalement rationnelle, car il existe une composante métaphysique de l'Europe. Pouvez-vous nous définir ce que vous entendez par une métaphysique de l'Europe ?
Je crois qu'on pourrait dire que la pensée métaphysique de Kant comme pensée de l'Europe détermine ce que peut et ce que doit être une Europe pacifiée à partir des exigences de la raison. Et des exigences de la raison en son usage pratique, c'est-à-dire en tant qu'elle n'explore pas la nature, mais qu'elle commande des actions, de la raison pratique extérieure et non pas intérieure, c'est-à-dire de la raison qui ne détermine pas les intentions des actions, mais les actions elles-mêmes en leur contenu réel, en leur contenu extérieur, qui font se rencontrer, quelque sorte spatio-temporellement, physiquement, les hommes. La métaphysique de l'Europe détermine donc les conditions permettant l'existence d'une Europe qui serait conforme aux exigences du droit, la raison pratique extérieure ou réalisée, aux exigences du droit dont le politique est en quelque sorte l'actualisation. Et ces exigences rationnelles, en ce qui concerne une communauté qui dépasserait le stade des nations, cette communauté supranationale, si on pense aux nations existantes que serait l'Europe, eh bien la raison montre que cette communauté européenne ne peut pas être pensée rationnellement, c'est-à-dire conformément aux exigences du droit et de sa réalisation politique, comme étant une unité politique forte, c'est-à-dire une unité politique fédérale, même pas une unité confédérale, à moins qu'on envisage une confédération extrêmement souple. Kant préfère parler d'un réseau d'alliances entre des nations européennes devenues conformes au droit, en s'étant dotée elle-même d'une constitution républicaine.
Donc si, comme vous venez de nous le dire, la métaphysique impose des limites au projet politique européen, pourtant, il existe un apport de la métaphysique à la politique, à savoir le projet de paix perpétuelle. En quoi l'Europe est-elle ou non concernée selon Kant ?
Alors, Kant, on le sait, absolutise en ce qui concerne l'action, le droit. Lorsqu'il concerne l'action dans sa réalité, le droit. La paix est bien entendu un objectif fondamental, mais pour Kant, la paix ne peut être une paix vraie, et même une paix simplement existante et durable, que si elle est conforme au droit. Kant est pacifique, mais pas pacifiste, pas la paix à tout prix, la paix, mais suivant le droit. Or, le droit, si vous voulez, consiste en un certain nombre d'exigences qui peuvent être appliquées aux relations internationales, et en particulier aux relations internationales à l'intérieur du continent européen. Alors, Kant, vous l'évoquiez tout à l'heure, madame, en rappelant l'affirmation kantienne que l'Europe est le continent qui, de manière vraisemblable, donnera un jour des lois à tous les autres, ça ne signifie pas que Kant ici envisage le continent européen s'étant organisé politiquement comme un État, avec une forte unité, qui pourrait imposer une constitution aux autres États et aux autres continents. Et cela signifie que, pour Kant, une réconciliation, une pacification des peuples européens peuples qui doivent se républicaniser. Seule la République est un régime pacifique, parce que ce sont les citoyens qui décident d'une guerre qu'ils feront eux-mêmes, alors que les monarques peuvent décider plus aisément d'une guerre qu'ils ne feront pas personnellement. Les républiques sont des régimes pacifiques, eh bien les États européens doivent tisser entre eux des relations pacifiques à travers des traités, mais sans que ces relations puissent déboucher dans la constitution d'une unité proprement européenne. Pour deux raisons, essentiellement. D'abord, Kant exclut tout État mondial et même continental. Un tel État serait soumis, si vous voulez, à des contraintes géographiques de distance telles que pour assurer son unité, il serait nécessairement conduit à l'autoritarisme, alors qu'une petite collectivité peut s'appuyer sur le consensus, sur un contrat réel, si vous voulez, peut-être possible à ce niveau-là, mais dans un vaste État, l'unité exigerait une forme monarchique, impériale, et Kant considère qu'un tel régime autoritaire, voire tyrannique, se renverserait nécessairement en anarchie, c'est-à-dire à la suppression du droit. Par conséquent, pas d'État mondial, pas d'État continental. Et c'est a fortiori vrai de l'Europe. C'est l'Europe qui est le continent le moins susceptible de se constituer en unité politique. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est le continent qui se détermine en pratique aussi par l'universel. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le continent qui se soumet à la légalité. C'est le continent de la loi. Et par conséquent, il y a en Europe, l'esprit européen est essentiellement tendu vers l'affirmation de l'universel. C'est un thème qui sera repris plus tard par Husserl, l'Europe, le continent de l'universel. Le continent de la philosophie. L'Europe, donc, l'esprit européen, a une signification qu'on peut dire cosmopolitique. D'ailleurs, Kant le dit, cosmopolitisme et européanisme, c'est la même chose. Non pas que le cosmopolitisme soit le produit de l'européanisme, mais au contraire, le cosmopolitisme est l'horizon qui définit l'européanisme, et c'est en affirmant l'universel que l'Europe s'affirme elle-même comme telle, à savoir comme le continent de la raison, c'est-à-dire le continent de l'universalisation de l'existence, le continent de la pacification du monde. Or, en se réalisant politiquement, l'Europe se constituerait réellement, et la réalité est toujours ce qui exclut, ce qui divise. L'Europe se constituerait comme un continent parmi les autres, face aux autres, contre les autres. La réalité politique exclut, alors que dans le domaine de l'idéalité, les différences peuvent s'échanger. On parle des échanges culturels. Par conséquent, une Europe politique serait une Europe qui ne pourrait plus être le témoin agissant de l'universel dans le monde, elle se particulariserait nécessairement face aux autres continents. Et en ce faisant, l'Europe perdrait son esprit, qui est l'affirmation de l'universel, l'affirmation du droit, l'affirmation de la paix entre les nations. La réalisation politique de l'Europe nierait ce qui fait le sens de l'Europe, nierait l'esprit européen, à savoir l'unification culturelle, l'unification spirituelle, et déjà l'unification donc au niveau de l'action dans sa réalité la plus concrète. Voilà pourquoi Kant considère que la raison ne peut pas consacrer de son autorité le projet d'une véritable unité européenne, d'une Europe fédérale. Les États-Unis ont été possibles en Amérique parce qu'il n'y avait pas une telle diversité culturelle sous-jacente, nationale sous-jacente. Les États-Unis d'Europe sont absolument impossibles selon le style d'une structure fédérale comme celle qui prévaut aux États-Unis.
Pourtant, la Constitution américaine imprime une dimension métaphysique au sein même de sa constitution. Le droit au bonheur, c'est une dimension métaphysique.
C'est vrai, mais pour Kant, par conséquent, donc, il ne peut pas y avoir de constitution européenne. La paix en Europe s'opérera par des traités, par des alliances révisables, et Kant évoque à l'époque le congrès de La Haye, des alliances entre républiques qui conserveront une souveraineté nationale. Des républiques qui seront des nations cependant pacifiantes. Une alliance est possible entre des républiques, elle n'est pas possible entre des régimes despotiques. Et par conséquent, pas de constitution européenne, mais des traités. Et ces traités, d'ailleurs, seront des traités essentiellement juridico-politiques. Kant ne veut pas que soient mêlés, en quelque sorte, l'éthique et le juridique. Il ne veut pas d'une communauté juridico-politique qui serait en même temps une communauté éthique, une communauté proprement spirituelle. Le droit doit rester à son propre niveau.
Justement, juste d'un point de vue technique, pour nous éclairer, quelle est l'exacte différence entre les traités et la Constitution ? Pour bien comprendre pourquoi les traités peuvent avoir cette dimension métaphysique et pas la Constitution.
Une Constitution européenne cimenterait les nations en une structure extrêmement unifiée qui signifierait au moins la relativisation, pour ne pas dire la disparition, des souverainetés nationales. Pour Kant, la réalité nationale et la réalité nationale organisée en état de droit, la République, est la structure indépassable de l'existence réelle. Par conséquent, on ne peut pas aller en quelque sorte au-delà du politique. Le politique, à travers des alliances, s'impose des obligations. Il limite en quelque sorte sa souveraineté, si je puis dire, mais parce qu'il le veut bien, c'est encore, si vous voulez, une manière pour l'État de manifester sa souveraineté que de consentir à des traités qui peuvent paraître limiter son champ d'action. Il n'en reste pas moins que c'est encore l'État qui est l'auteur de sa propre limitation. Et pour Kant, on ne peut pas aller au-delà, surtout en Europe, étant donné l'histoire de l'Europe, la richesse des traditions nationales en Europe, on ne peut pas aller au-delà des États républicains qui doivent entre eux s'allier et faire en sorte que ce réseau d'alliances se diffuse par tout le monde, mais ça ne signifie pas qu'il faut essayer d'aboutir, c'est absolument impossible, à la réalisation d'une unité européenne politique d'un type fédéral par exemple.
Merci Bernard Bourgeois pour ces éclaircissements.
Merci à tous les deux pour ce dialogue où on voit combien Kant pense que l'Europe ne peut se penser européenne qu'en faisant l'économie d'une unité politique. Kant exclut donc un État continental, pas d'unité politique européenne, donc dans la pratique, pas de constitution. Mais cela n'exclut pas la mise en place de systèmes d'alliances entre États, un système d'alliances souple, le tout régi par le droit. Ce seraient des États, disons républicains, qui seraient aussi des nations pacifiantes pour l'Europe. Merci à tous les deux et à bientôt.